D'après l'expérience de Lise Bourbeau, il existe cinq blessures que nous connaissons tous plus ou moins, cinq blessures que nous vivons et nous ne sommes pas forcément conscients de les vivre. Seulement, justement, quand on n'est pas conscient de vivre une de ces cinq blessures, voire plusieurs de ces cinq blessures, ben ça pose un réel problème parce que ces cinq blessures, quand on n'y travaille pas, nous empêchent d'être nous-mêmes. C'est ce qui fait que Lise Bourbeau a écrit ce livre, Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Comme je me suis engagé la semaine dernière dans l'entretien que j'ai eu avec Hervé, que vous avez peut-être écouté, j'espère que vous l'avez fait, parce que c'était très intéressant de voir quelqu'un qui vivait une autothérapie à partir des podcasts heureux au présent. Donc comme je me suis engagé auprès d'Hervé, nous allons nous arrêter aujourd'hui sur ces cinq blessures pour premièrement commencer à chercher à les comprendre, savoir qu'est-ce que ça veut dire, en gros d'où elles viennent et comment Lise Bourbeau a structuré cette approche des blessures. Quels sont les effets de ces blessures, à quoi on peut les remarquer, les caractéristiques qui permettent de les identifier, et puis enfin, comment envisager d'y travailler pour sortir de ces blessures. Je m'appelle Pascal Kionkion, votre praticien en relation d'aide, coach et thérapeute, et je suis avec vous chaque semaine avec les podcasts et chaque jour pour ceux que j'accompagne vers la découverte de leur propre bonheur. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses. Dans cet épisode du jour dans lequel je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, je veux vraiment que l'on focalise notre attention sur la blessure. Et vous pourriez en être étonné en vous disant, ben justement, on va parler des cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Forcément, on va prêter attention à la blessure. Mais si je vous y invite, ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous vivons des situations qui sont difficiles jour après jour, que ce soit avec un collègue, un ami, un membre de la famille, tout en ayant l'impression que le problème se trouve ailleurs, chez l'autre, en omettant complètement qu'il y a une corrélation évidente avec nos propres blessures. C'est le premier apport de Lise Bourbeau dans ce livre « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Si nous avons une grande difficulté à vivre certaines situations, que nous nous sentons blessés, que nous avons mal quand quelqu'un nous dit ou fait quelque chose, quand nous vivons un défi, un sentiment de quel qu'il soit, de rejet, d'abandon, d'humiliation, c'est parce que nous sommes blessés. Et là, je reprendrai une image employée par Don Miguel Ruiz. Supposez que vous avez une maladie de peau et que vous avez quelqu'un qui veut vous prendre dans ses bras pour vous montrer son amour, même si l'intention de la personne est de vous montrer son amour, ce sera très difficile si vous avez cette maladie de peau qui en plus est douloureuse au toucher. D'ailleurs, parenthèse intéressante, c'est que dans la blessure de rejet, Lise Bourbeau présente que bien souvent, des pathologies qui sont attachées à la blessure de rejet sont des maladies de peau. Comme ça, ça permet de mettre une barrière, une distance entre la personne et nous. Donc d'abord, pour comprendre le fonctionnement des blessures, après que je vous ai introduit en vous disant que les blessures ne sont pas là en pleine conscience, trop souvent malheureusement inconscientes dans notre vie, peut-être que déjà on peut commencer à se dire, tiens, effectivement, quand je vis telle chose difficilement, est-ce que j'ai pris conscience que c'est un relâchement qu'une blessure? Non, c'est le travail de Lise Bourbeau dans son livre « Apprenez à découvrir vos blessures » pour comprendre les raisons pour lesquelles vous vivez mal certaines situations. C'est en lien tout à fait étroit avec la thérapie émotivo-rationnelle qui nous permet de prendre conscience que ce n'est pas parce que la situation est blessante que nous nous sommes sentis blessés. Nous nous sommes sentis blessés parce que nous avons une blessure dans ce domaine-là. Parce que si on mettait quelqu'un d'autre à la place, à ma place par exemple, bien il ne se sentirait peut-être pas de blessure, il le vivrait peut-être très bien. Et peut-être même, on peut avoir cette expérience où on a partagé avec certaines personnes des situations difficiles et puis la personne nous dit « Bah oui, j'entends, mais pourquoi tu le vis comme ça, quoi ? T'aurais pu le vivre autrement. » Bien évidemment, ça signifie que cette personne n'a pas la même blessure que la nôtre. Donc, ces blessures viennent toutes de l'enfance. Donc, les cinq blessures que j'ai mentionnées, rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice, prennent naissance dans l'enfance. Lise Bourbeau dit même que on naît, du verbe naître, avec la mission de chercher à panser ses propres blessures. Je cite, elle écrit, je cite, « Lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui que la raison pour laquelle il s'incarne, c'est d'être lui-même tout en vivant de multiples expériences. Son âme a d'ailleurs choisi la famille et l'environnement dans lesquels il naît avec un but très précis. Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète, celle de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Fin de citation. Alors, ça peut être un peu gênant de se dire, bah oui, mais pourquoi elle croit en cette forme de réincarnation? Et si vous avancez dans les écrits de Lise Bourbeau, vous verrez qu'elle pense qu'on a choisi sa famille et qu'il y a une intentionnalité dans l'essence, dans la démarche. Que vous partagiez ou pas cette approche, c'est égal. Le fond du sujet peut être enrichissant. C'est comme pour les accords Toltec. Certains me disent, oui, mais c'est un peu bizarre ce que dit Don Miguel Ruiz par moment. C'est complètement égal. Je ne vous demande pas d'adopter la philosophie de Don Miguel Ruiz, comme je ne demande pas d'adopter la philosophie de Lise Bourbeau, mais de comprendre le fond du sujet avec ses blessures de rejet, abandon, humiliation, trahison et injustice. Donc, depuis l'enfance, et c'est dans l'enfance que va se démarrer, on va dire, ce travail de guérison des blessures, on va avec le parent du même sexe ou le parent du sexe opposé, ou parfois le responsable du développement, développer un premier travail, on va dire, sur soi-même pour commencer à travailler et à guérir une blessure. Je renvoie au podcast qui s'intitule « Je vous assure que vous croyez en vous », dans lequel je prends soin d'expliquer comment naît une croyance. Et je vous y renvoie parce qu'en réalité, cette démarche-là est en lien avec la question des blessures. Parce que si je prends par exemple la première blessure qu'aborde Lise Bourbeau, qui est la blessure de rejet, qui est vécue avec le parent du même sexe, il suffit d'un seul événement pour faire naître la conviction que l'on est rejeté à partir d'un seul événement. Et la suite du déroulé de notre histoire aura pour objet de corroborer notre croyance initiale. Parce qu'on a horreur de se tromper et de dire « mais non, je croyais ça, mais ça n'a pas de sens ». Il faut généralement un accident de vie, un gros événement pour qu'on dise « tiens, je croyais ça, mais en fait, je me suis trompé ». Donc la plupart du temps, notre démarche consiste à aller valider des croyances. Donc si je crois que j'ai été rejeté et que je suis, permettez-moi l'expression, digne de rejet, ou qu'il est normal que je sois rejeté, eh bien ça aura un impact sur ma manière de lire la vie relationnelle avec les autres, dans laquelle je trouverai légitime qu'on me rejette, et plus encore, là c'est un travail inconscient, vraiment on n'est vraiment pas conscient de ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on va même chercher à être rejeté pour valider une croyance. Alors ça c'est valable pour les blessures, mais c'est valable pour toutes les croyances. Vous êtes convaincu d'être, de ne pas être à la hauteur, vous vous mettrez dans des situations dans lesquelles vous ne serez pas à la hauteur ou bien vous allez même vous auto-censurer pour ne pas être à la hauteur de manière à valider une croyance. Donc c'est aussi valable dans ce travail des blessures. La blessure de rejet qui est avec le parent du même sexe, la blessure d'abandon qui est vécue avec le parent du sexe opposé, la blessure d'humiliation qui est vécue avec la personne qui était responsable du développement. Donc ça veut dire avec une grande part émotionnelle, donc ça peut être le père, la mère, parfois la grand-mère, etc. Ça dépend où, qui était responsable du développement de l'enfant. La blessure de trahison qui est vécue avec le parent du sexe opposé et la blessure d'injustice qui est vécue avec le parent du même sexe. Donc il y a deux blessures vécues avec le parent du même sexe, deux blessures vécues avec le parent du sexe opposé et une qui est vécue avec le responsable du développement, donc parents du même sexe, rejet et injustice, du sexe opposé, abandon et trahison, et puis humiliation qui se trouve là avec le parent responsable du développement, ou avec la personne, c'est pas forcément le parent, la personne responsable du développement psycho-émotionnel, puisque c'est essentiellement comme ça que ça fonctionne, je dirais même émotionnel d'abord, puisque l'enfant a une grande, grande paraît un grand besoin de développement émotionnel, à la mesure où il n'a pas accès à la cognition, à l'analyse, à la réflexion, en tout cas il y a une grande part qui nous échappe, mais en tout cas pas autant qu'il pourra le faire quand il sera plus âgé, ce qui signifie que le gros de son développement est essentiellement émotionnel pour répondre aux besoins fondamentaux, sécurité, sécurité physique, alimentation, sommeil, etc., les besoins, dont parle Abraham Maslow dans sa pyramide célébrissime. Si les blessures émergent dans notre développement de l'enfance, c'est parce que nous avons vécu quelque chose qui n'a pas été réglé. Élise Bourbeau précise « Quand je fais allusion à quelque chose de non réglé, je fais toujours référence à une expérience vécue dans la non-acceptation de soi. » Il y a une différence entre accepter une expérience et s'accepter soi-même. Prenons l'exemple d'une jeune fille qui a été rejetée par son père, car celui-ci désirait un garçon. Dans un tel cas, accepter l'expérience consiste à donner le droit à son père d'avoir désiré un garçon et d'avoir rejeté sa fille. L'acceptation de soi consiste, pour cette jeune fille, à se donner le droit d'en avoir voulu à son père et de se pardonner de lui en avoir voulu. Il ne doit subsister aucun jugement envers son père et elle-même, seulement de la compassion et de la compréhension pour la partie qui souffre en chacun d'eux. Elle saura que cette expérience est complètement réglée lorsqu'elle se permettra de faire ou dire quelque chose qui pourrait faire vivre du rejet à quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas son intention, mais qui pourrait être un résultat. Il existe, poursuit-elle, une autre façon pour elle de savoir que ce genre de situation a vraiment été réglée et vécue dans l'acceptation. La personne qu'elle aura rejetée ne lui en voudra pas. Elle saura que ça arrive à tous les humains de rejeter une autre personne à certains moments de leur vie. Donc là, on a un élément que Lise Bourbeau commence à ouvrir sur ce qui peut advenir quand on a travaillé sur ses blessures. Quelque part, je reprends le même verbe que celui qu'elle a employé, quand on a réglé. J'ouvre une parenthèse pour aborder un point que j'ai évoqué avec une personne en accompagnement cette semaine. C'est que si on n'a pas réglé une situation, elle ressurgira à un moment ou à un autre. Et c'est dans le droit fil de la pensée de Lise Bourbeau. Il dit que finalement, nous avons des blessures dans l'objectif de les guérir. Si ce n'est pas réglé, quelque part guéri, ça reviendra. Le seul inconvénient, enfin le gros inconvénient, c'est que ça reviendra à des moments où je ne m'y attends pas. Donc j'aurai des situations de vie qui vont être très difficiles parce que je n'ai pas réglé ça. Autant donc prendre sérieusement le temps d'y travailler, de travailler sur la blessure identifiée, de régler cette situation pour qu'on puisse en tirer le profit sans les inconvénients. Et ça, c'est tout à fait possible et envisageable. On y reviendra peut-être dans la troisième partie. Donc, d'abord, nos blessures viennent de l'enfance. C'est le premier volet que je voulais évoquer avec vous pour mieux comprendre comment ça fonctionne. C'est en relation avec l'ego qui veut continuer à avoir raison, qui veut en même temps se construire, mais pour lequel on peut appuyer sur le bouton ou baisser le volume de manière à travailler sur soi-même pour commencer à s'entendre, percevoir sa propre blessure, comprendre que si on a mal, ça n'a rien à voir avec l'autre personne. Vous voyez la petite pichenette qui envoie vers Don Miguel Ruiz, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Comprendre que c'est ma blessure, c'est ma lecture de la situation. Et là, je fais allusion à Albert Ellis dans la thérapie émotivo-rationnelle. Et que du coup, je vais utiliser les situations de vie qui s'ouvrent à moi pour guérir ma blessure. Comment peut-on identifier ses propres blessures? Alors, Lise Bourbeau donne plusieurs éléments. On va d'abord, évidemment, aller voir avec quels parents on a le sentiment que ça coince. Mais on va aussi utiliser des masques pour repérer les blessures donc, qui sont présentes dans notre vie. Et puis, d'autres éléments qui sont des éléments morphotypologiques, donc correspondant à notre forme, la forme du corps. D'ailleurs, elle met des croquis à chaque blessure pour voir la posture de face et la posture de profil. On peut le voir aussi avec la dimension des yeux, le positionnement des yeux, le choix du vocabulaire, des traits de caractère personnel, par rapport à nos propres peurs, les plus grandes peurs, notre manière d'être en relation avec l'alimentation. Parce que je dis bien évidemment que la relation que l'on a avec l'alimentation est relative à la gestion de nos propres émotions. Donc avec ces éléments-là, on a des outils qui permettent d'identifier les blessures. Et Lise Bourbeau prend le temps de s'arrêter sur chacun de ces aspects. Si je prends par exemple la blessure de l'abandon. Elle peut être identifiée quand on prend conscience que l'on a tendance à être dépendant. C'est le masque du dépendant qui permet de se rendre compte que tiens, j'ai sans doute une blessure d'abandon. J'ai besoin d'être avec les autres. J'ai besoin que les autres me reconnaissent. J'ai besoin, je n'arrive pas à faire des choses seul. J'ai besoin d'être avec mon chéri ou ma chérie en quasi-permanence. Quand il part quelques jours, je le vis mal. J'ai le sentiment, une jalousie qui est là, qui est très présente. Voilà, des éléments qui montrent qu'on a sans doute une blessure d'abandon. La blessure d'abandon est vécue avec le parent du sexe opposé et qui est relative à un manque de nourriture affective ou qui ne correspondait pas à la nourriture dont on avait besoin. Intéressant de comprendre que ce n'était pas parce que mon parent ne m'aimait pas ou ne me donnait pas d'affection, mais que l'affection était en inadéquation avec mon besoin. Donc ce n'était pas le genre de nourriture dont j'avais besoin. Au niveau de la morphotypologie, pour vous illustrer un petit peu chacun des domaines, je vous les présente comme ça. En général, on a quelqu'un qui a un corps long, mince, qui manque de tonus, qui a une sorte d'affaissement en même temps avec des jambes faibles. Il a une partie du corps qui est tombante ou flasque, qui correspond un peu à cette notion d'abandon. Et puis au niveau des yeux, il a peut-être de grands yeux, mais en même temps ils sont tristes avec un regard qui tire. Et puis un choix de vocabulaire dans lequel il dit « je ne supporte pas ceci, je me fais bouffer, on ne me lâche pas, je me sens seul » ou bien… Voilà. Évidemment, le verbe « abandonner » est également présent. C'est aussi une personne qui, dans son caractère, aura tendance à adopter le profil de la victime et en même temps de la victime qui a besoin d'une relation fusionnelle parce qu'elle est consciente d'être dans ce fonctionnement de la dépendance. Une personne qui a besoin de présence, comme je l'ai dit, d'attention, de support et surtout de soutien, qui a besoin d'être comprise, qui a de la difficulté à dire non et à accepter qu'on lui dise non. Elle se sent abandonnée quand on lui dit non. Qui a tendance à être triste, à pleurer facilement, et puis à susciter la pitié. Elle cherche à faire en sorte qu'on la plaigne. Je m'arrête là sur les caractéristiques physiques. C'est une personne qui a très, très, très peur de la solitude. Elle déteste la solitude. Être seule, c'est un problème. Et puis sur le plan alimentaire, elle a un bon appétit. Elle peut avoir une tendance boulimique. Elle aime bien sûr les aliments qui sont assez mous et mange lentement. Je m'arrête juste là sur cette blessure d'abandon. Sachez que ce travail est fait sur chaque blessure. Rejet, humiliation, trahison et injustice. Un vrai beau travail réalisé par Lise Bourbeau et je l'en remercie parce que c'est vraiment très intéressant. Et si vous avez besoin, comme je l'ai dit, d'avoir une confirmation, à la fin de chaque chapitre, elle présente le physique du masochiste, donc des masques, le physique du masochiste pour la blessure d'humiliation, le physique du contrôlant pour la blessure de trahison, le physique du rigide pour la blessure d'injustice, le physique du dépendant pour la blessure de l'abandon, comme je viens de le décrire, et le physique du fuyant pour la blessure du rejet. Vous entendez que je viens de vous mentionner les masques, je ne les ai pas présentés jusqu'à maintenant à part le dépendant. Donc le fuyant pour le rejet, le dépendant pour l'abandon, le masochiste pour l'humiliation, le contrôlant pour la trahison et l'injustice pour le rigide. Qu'est-ce que c'est qu'un masque ? Alors, l'image est déjà assez parlante. Mais on pourrait dire qu'un masque est une stratégie d'évitement, une stratégie qui a été construite dans le but de ne pas souffrir de la blessure. Donc on met quelque chose en place que l'on est convaincu qui sera efficace pour ne pas souffrir. Finalement, on est dans la fuite. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on a travaillé sur sa propre blessure, qu'on l'a réglée, pour reprendre le terme de Lise Bourbeau, là j'arrive sur la troisième partie que j'ai annoncée au début de ce podcast, eh bien on va se défaire progressivement de ces masques dont on n'a plus besoin. Je garderai l'exemple de la blessure d'abandon qui conduit au masque du dépendant. La plus grande peur du dépendant est la solitude, comme je l'ai évoqué. Et Lise Bourbeau précise, il ne la voit pas car il s'arrange pour être rarement seul. Lorsqu'il l'est, il peut se faire croire qu'il est bien seul, sans toutefois réaliser qu'il recherche fébrilement des occupations pour passer le temps. En l'absence de présence physique, la télévision et le téléphone lui tiendront compagnie. Je rajoute les réseaux sociaux. Pour ses proches, il est plus facile de voir et surtout de sentir cette grande peur de la solitude en lui. Même lorsqu'il est entouré de personnes, ses yeux tristes le trahissent aussi. Et sans aucune surprise, pour sortir des blessures, pour guérir ces blessures, pour les régler, la première étape est de reconnaître sa blessure et de l'accepter. Véritablement, quand vous lisez ce livre, prenez note, prenez soin d'identifier vos propres blessures pour les identifier, parce que sans avoir identifié vos blessures, sans les reconnaître, vous ne pouvez pas les accepter. Les accepter, sur heureux au présent, c'est dire « c'est comme ça ». Je reconnais ma blessure d'abandon, elle est là. C'est pas non, je veux pas de blessure d'abandon. Ah non, rigolez quoi. Si j'ai une blessure d'abandon on voit que j'ai mon masque de dépendance, c'est terrible, je vais me faire railler. Non. Je reconnais, je l'ai identifié. Elle est là. Vous ne pouvez pas en sortir tant que vous ne l'avez pas reconnue et acceptée. C'est véritablement important de passer par cette étape. En parlant d'étapes, dans le premier chapitre du livre, Lise Bourbeau parle justement de quatre étapes lorsque nous créons une blessure. La première est celle où nous sommes nous-mêmes. La deuxième consiste à ressentir de la douleur en découvrant que nous ne pouvons pas être nous-mêmes, parce que ça fait pas l'affaire des adultes autour de nous. Malheureusement, les adultes ne réalisent pas que les enfants essaient de découvrir qui ils sont vraiment. Et au lieu de les laisser être eux-mêmes, ils sont davantage occupés à dire à l'enfant qu'il ne devrait pas être ceci ou cela. La troisième étape représente celle de la révolte face à la douleur vécue. C'est à ce moment-là que l'enfant commence à faire des crises et à résister à ses parents. Et la dernière et quatrième étape, c'est la résignation. C'est celle où nous décidons de nous créer un masque pour essayer de ne pas décevoir les autres et surtout pour ne pas revivre la souffrance qui résulte du fait de ne pas avoir été accepté lorsque nous étions nous-mêmes. Donc la guérison est complète lorsqu'on a travaillé sur ces quatre étapes et que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on a décidé de déposer le masque pour être véritablement soi-même. Et quand avons-nous accepté d'être véritablement soi-même, me diriez-vous ? Eh bien, Lise Bourbeau répond à cette question. Elle dit « Souviens-toi que t'aimer signifie te donner le droit d'être tel que tu es pour le moment et t'accepter, même si tu fais aux autres, ce que tu leur reproches. L'amour n'a rien à voir avec ce que tu fais ou ce que tu possèdes. T'aimer, c'est donc te donner le droit de parfois blesser les autres en les rejetant, en les abandonnant, en les humiliant, en les trahissant ou en étant injuste avec eux malgré toi. Voilà une étape importante vers la guérison de tes blessures. » Intéressant, n'est-ce pas? Nous avons parfois tendance à envisager de nous aimer si nous remplissons les conditions, etc. Et là, je trouve très intéressant que Lise Bourbeau précise que s'aimer, c'est s'accepter comme on est là, ici et maintenant, pas un jour quand on correspondra à tel ou tel standard. Et puis, je terminerai sur ce dernier aspect avec des signes qui indiquent que la guérison des blessures est en bonne voie, et je garderai toujours la même blessure, la blessure d'abandon. Vous irez voir les autres blessures, même si je l'ai survolé celle-là, prenez le temps de bien la lire quand même. Lise Bourbeau écrit « Ta blessure d'abandon est en train de se rétablir lorsque tu te sens bien, même si tu es seul, et que tu cherches moins l'attention. La vie est moins dramatique. Tu as de plus en plus envie d'entreprendre des projets, et même si les autres ne t'appuient pas, tu peux continuer. » Je trouvais chouette de vous lire ce paragraphe parce que il est riche de ce qui nous attend. Et d'ailleurs, il y a un véritable avantage à guérir ses blessures. C'est qu'on vit dans l'autonomie, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se soumettre à la loi des autres, au diktat social, au poids de vouloir plaire, de vouloir correspondre à ceci et à cela qui participe notamment à développer de la souffrance. On accepte que les autres ne nous acceptent pas. L'autonomie affective, c'est la capacité de savoir ce que nous voulons et de faire les actions nécessaires à sa réalisation. Et Lise Bourbeau évoque que lorsque nous avons besoin d'aide, nous savons en demander sans attendre que ce soit une personne en particulier qui le fasse. La personne autonome ne dit pas « que vais-je devenir seul lorsque quelqu'un disparaît de sa vie ?» Elle a de la peine, mais elle sait au plus profond qu'elle peut survivre seule. Je vous encourage vivement à lire ce livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous informe que je suis tout à fait enclin à travailler avec vous sur vos blessures, vous aider à les identifier. Oui, vous pouvez souffrir des 5 blessures. Vous pouvez souffrir de 3, de 4. Généralement, il y a une ou deux blessures qui sont très fortes et qui peuvent d'ailleurs cacher d'autres. Généralement, ce qui nous fait le plus souffrir, on a tendance à vouloir l'ignorer, hein, parce que l'ego veut nous protéger, pour nous donner l'impression que nous sommes plus forts que nous ne le sommes, comme si on avait une blessure, on était faible, ce qui est une croyance à balayer le plus vite possible. Si c'est difficile pour vous, travaillez sur ces blessures en étant accompagné. J'encourage vivement à prendre le cahier de vie pour travailler sur ces blessures. Allez écouter le rendez-vous qui s'intitule « Rendez-vous avec vous-même » si vous voulez comprendre comment utiliser le cahier de vie. Mais quoi qu'il en soit, prenez connaissance de vos blessures, acceptez-les, travailler pour les régler est un moyen efficace pour vivre sa propre vie en mieux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.